Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, 2 heures de médias et de culture au sens large. Tous les médias et toutes les formes de culture. Vous pouvez évidemment nous suivre en vidéo sur le site europe1.fr. D'ailleurs, regardez cette image. Aujourd'hui, notre info média saute très très haut. C'est le nouvel album de Reporters sans frontières, au profit comme toujours de la liberté de la presse, qui accueille le mythique photographe Philippe Halsmann. Vous connaissez tous et toutes ces icônes. Dali ou Marilyn Monroe qui sautent en l'air, pardon pour le pléonasme, 100 fois imité. Jamais égalé. Christophe Deloire, le président de RSF, sera avec nous. Ensuite, il y aura baston.
C'est incroyable, chaque fois qu'on commente ce match, il vient au même moment.
C'est incroyable, et on ne s'attendait pas en plus.
Quel saligo !
Vous l'avez compris, on va parler catch avec nos invités Christophe Agius et Philippe Chéreau, les voix du catch en France. Ils présentent 2 émissions sur la chaîne AB1 et c'est que le début. Le catch revient en force. Il touche déjà 180 pays dans le monde, 650 millions de foyers dans 25 langues. Enfin, Mathias Malzieu pour un film, Une sirène à Paris et un nouvel album de son groupe Dionysos et une tournée Ceci explique cela. Hélène Manerino nous fera son portrait inattendu. Inattendu, c'est vraiment l'adjectif qui convient à Mathias Malzieu. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bourdel, bonjour à tous.
Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Philippe Bourdel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Cyril Lacarrière qui est un bon citoyen et qui tousse dans son coude. Cyril, qu'est-ce que vous avez au menu ce matin?
En ce jour des enfants, on parle ce matin de débat des municipales à Paris, du très beau documentaire d'un lycéen qui s'est rendu à Auschwitz, de la fin d'une émission sur M6 de TV5 Monde qui joue au prof de français et d'un rappeur qui devient un podcaster.
Tout ça, ça va tenir avant 11h?
Mais ouais, vous allez voir.
Cyril, on débute avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Une belle soirée pour le service public. Ils ont regardé majoritairement France 3 et son capitaine Marlowe, c'était une rediff. 4 900 000 téléspectateurs, c'est un peu plus de 21% de part de marché. Deuxième position pour la soirée dont on a parlé hier. À
soirée
micro,
spéciale de Michel Simès.
La soirée spéciale de Michel Simès sur France 2, consacrée au coronavirus. Il y avait presque 2 900 000 Français devant la 2. C'est la fois précédente, en février, l'émission de Michel Simès avait été suivie par 2 millions de téléspectateurs. Donc il y a un effet lié à l'actualité. Troisième position pour TF1 avec sa série Magnum, un peu plus de 2 600 000 personnes, et la quatrième position pour M6 avec son jeu Pékin Express, suivi par presque 2 200 000 téléspectateurs.
Voilà pour les audiences et séries. On passe maintenant au journal des médias. Le débat, les débats même des municipales à Paris ce soir, c'est LCI qui ouvre le bal et on sait désormais qu'il y en aura un second avant le premier tour.
Les auditeurs de Culture Média le savaient depuis une semaine puisque je vous l'avais dit à ce micro. France Télé l'a confirmé hier soir. Le service public organisera bien un débat avec les principales têtes de liste parisiennes. En tout cas, 6 d'entre elles. Rachida Dati n'a pour le moment toujours pas donné son accord. Comme je vous l'avais dit également, la date retenue est le mardi 10 mars, c'est mardi prochain. Et ce nouveau débat sera diffusé sur France 3 Île-de-France, France Info Télé et Radio et France Bleu Paris.
Et comme on l'avait dit, le 10 mars, c'est la veille de PSG Dortmund le 11. Cyril, vous voulez nous parler d'un documentaire diffusé ce soir sur Canal Plus Family, qui est une chaîne, comme son nom l'indique, du bouquet Canal Plus.
C'était une rencontre émouvante que nous convie ce soir Canal Plus Family, la rencontre entre un lycéen, Baptiste Antignani, 18 ans, et Denise Holstein, 92 ans, une rescapée des camps de la mort durant la Seconde Guerre mondiale. Tous les deux ont un point commun, ils ont fréquenté le même lycée à Rouen. On écoute un extrait de la bande-annonce.
En février 2018, j'avais 17 ans. J'étais en terminale et je suis parti avec ma classe à Auschwitz pour y faire un travail de mémoire sur les traces de Denise Holstein, la seule rescapée des camps de ma ville. Auschwitz, le tristement célèbre camp de la mort, où 1 million de juifs furent exterminés par les nazis, de 1940 à 1945. Avant de partir, j'imaginais pleurer. J'imaginais ressentir une véritable émotion durant la visite des camps. Seulement une fois sur place, rien. Aucune émotion sincère. À vrai dire, je me forçais à être ému. Je n'ai aucune accroche affective à cette partie de l'histoire. Aucun membre de ma famille n'a été déporté. Mais pourquoi je n'ai rien senti? Seulement un immense vide. Comment fait-on pour ne pas oublier sans émotion? C'est quoi le devoir de mémoire ?
Une vie nous sépare, c'est le titre de ce documentaire, et c'est donc à partir de cette absence d'émotion que ce jeune garçon a décidé de se lancer dans la réalisation de ce film. Un film dont la forme vous surprendra peut-être, un rythme assez lent, parfois de longs plans sans qu'un mot soit prononcé. Mais ce que filment Baptiste Antignani et sa co-réalisatrice Raphaël Gosgardet, c'est la mémoire de cette survivante des camps. Et c'est un véritable travail d'archiviste que s'est livré Baptiste Antignani. Il nous explique comment il a pu retrouver toutes ces images. Il est interrogé par Alexandre Omar.
Denise, en fait, m'a donné sa confiance et m'a donné la possibilité de fouiller tout un placard durant le tournage. Donc j'y ai passé mes nuits pendant le tournage, voilà, à fouiller, à lire. Elle m'a fait pleinement confiance et du coup j'ai plongé vraiment au sens propre de sa mémoire. Le gros du travail, ça a été aussi de reconstruire la famille Denise par des photos. Comme c'est une mémoire, c'est une démarche mémorielle extrêmement incarnée. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps en fait de retrouver les photos de ses parents. Puis, simplement, comme j'étais avec elle sur place, voilà, on se mettait dans une pièce et puis je lui demandais qui était qui sur les photos. Et puis petit à petit, j'ai commencé à recréer la famille.
Nous avons demandé au jeune réalisateur également, qui n'a donc pas été ému en allant dans le camp d'Auschwitz, comment il imaginait, lui, la bonne manière de transmettre aux jeunes générations ce qui s'est passé dans les camps.
Je ne crois pas avoir la réponse. Comme c'était une démarche en fait extrêmement personnelle et individuelle, je n'ai pas pris forcément le temps de réfléchir sur un point de vue de masse, sur nous les jeunes. Moi, je voulais fuir au maximum, au final, cette question de groupe, cette question-là d'héritage, en tout cas, qui est formulée par Serge Klarsfeld. Dans le documentaire, c'est vrai qu'elle se pose, elle est importante. Il faut sans cesse en parler, il faut continuer de transmettre. Il faut des personnes de notre âge, qui ne soient pas forcément de la communauté juive, qui puissent s'engager sur cette thématique-là.
À chacun donc de s'emparer de ce devoir de mémoire. Regardez ce soir ce très beau documentaire sur cette rencontre entre un lycéen et une ancienne déportée. Une vie nous sépare, c'est sur Canal Family à 20h50.
Tout à fait autre chose, M6 dit stop à Top Départ.
C'est la fin pour l'émission de Karine Galli. 5 mois après son lancement, l'émission consacrée aux courses hippiques s'arrêtera le 14 mars. Une information de nos confrères de Paris Turf. Le programme diffusé tous les samedis n'a clairement pas trouvé son public. À peine 64 000 téléspectateurs étaient en moyenne devant leur écran pour regarder ce jeu autour des courses de chevaux. Un jeu où il n'est pas rare que José et Guillaume Coves, père et fils à la ville, montent dans les tours sur le plateau.
Et enfin le 12, Broken Star.
Ah oui,
il Broken était... Star. Oui. J'espère qu'elle ne va pas justifier son nom. Broken Star, ça veut dire étoile brisée.
À deux doigts,
tu viens de l'apprendre. Étoile brisée, tu ne sais même pas parler anglais. Arrête un petit peu. À deux doigts d'ouvrir son palmarès le 4 février.
Bonne ambiance dans la famille
Coves. C'est
Top Départ, c'est donc terminé et le programme ne sera pas remplacé. Pas de changement en revanche concernant les grandes courses de la saison qui seront bien diffusées sur M6 et Paris Première. Une énorme production, n'est-ce pas, Philippe ?
Mais énorme. Quand les médias endossent le rôle de prof.
C'est ce qui se passe avec TV5 Monde. La chaîne de la francophonie a décidé de lancer une application pour apprendre le français, bien sûr. Ah. Une offre entièrement gratuite lancée partout dans le monde qui s'adresse aux adolescents et aux adultes qui veulent être guidés dans l'apprentissage du français. Nous avons joint Evelyne Paqui, la directrice en charge de la langue française à TV5 Monde. Elle nous explique ce qu'on va pouvoir trouver dans cette application.
L'application propose des exercices pour améliorer sa compréhension orale du français à partir d'émissions diffusées sur TV5 Monde. C'est-à-dire que nous utilisons des reportages, des interviews, des extraits de courts-métrages, des clips musicaux, etc. Donc l'utilisateur ou l'utilisatrice est guidé en fait pas à pas dans la compréhension de ce qui est dit dans la vidéo. Et ce sont des exercices qui sont aussi conçus pour 4 niveaux de langue différents, donc du niveau débutant au niveau avancé, et pour apprendre le français en tant que langue étrangère.
Mais une question quand même, est-ce que c'est bien le rôle d'une chaîne de télé de prendre le costume de professeur ? On écoute la réponse de la dirigeante de TV5 Monde.
TV5 Monde est la chaîne de la francophonie et c'est donc un média qui a notamment pour mission de promouvoir la langue française. TV5 Monde s'adresse aussi aux non-francophones. Par exemple, les émissions à l'antenne sont sous-titrées en 13 langues différentes. Et depuis plus de 20 ans maintenant, la chaîne propose aussi des outils, des ressources pédagogiques pour les professeurs de français langue étrangère et pour les personnes qui apprennent le français. Donc l'application est la dernière née en fait de ce dispositif. Elle répond à de nouveaux usages.
Alors, if you don't speak French very well, vous pouvez télécharger cette application de TV5 Monde pour apprendre le français.
Le podcast, tout le monde s'y met, même les rappeurs à la voix rauque.
Et quand on parle d'un rappeur à la voix gutturale, forcément, on ne peut parler que de Joey Starr. Et voici donc la moitié de NTM qui se met au podcast en collaboration avec la plateforme Deezer. Le chanteur se met sur les traces de Christophe Ondelatte puisqu'il a décidé de s'intéresser aux emblématiques chefs de gang. Je vous propose d'écouter un extrait du tout premier épisode mis en ligne cette nuit.
Vous connaissez l'histoire d'Al Capone, d'Escobar, de Mesrine, comment ils vécurent, comment ils sont morts. Ça vous a plu? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Christopher Coke, Stanley Williams ou de William Da Silva Lima. Des gangsters modernes et méconnus qui ont inscrit leur nom en lettres de sang dans les annales du crime. Gang Stories t'emmène dans les coins les plus dangereux du monde pour te raconter en mots et en musique leur destin hors normes qui croise aussi celui de notre époque. Et si ces chefs de gang, considérés par certains comme des dieux, par d'autres comme des démons, n'étaient en réalité que le fruit des sociétés qui les ont vus naître? C'est bien connu, toute société a les criminels qu'elle mérite. Gang Stories.
Pour ce premier épisode, ça donne envie. Hein. Ah ouais. Joe Starr a décidé de suivre les pas du Shower Posse, un gang qui a fait régner la terreur durant plus de 30 ans à Kingston. Et c'est toute cette première saison qui se déroulera à la Jamaïque. Trois saisons de 4 épisodes de 20 minutes sont annoncées par Deezer.
Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
À suivre, l'infomédia du jour avec au programme la nouvelle formule de l'album de Reporters sans frontières qui sort demain. On en parle avec son secrétaire général Christophe Deloire dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est alors Philippe de l'Info Média du jour.
Comme tous les ans, chaque premier jeudi du mois de mars, RSF, Reporters sans frontières, publie un album de photos pour défendre la liberté de la presse. À l'honneur du numéro 63 qui va paraître demain, le génial photographe Philippe Halsmann. RSF qui s'offre pour 2020 une nouvelle formule en quelque sorte, un album qui ressemble davantage à un MOOC, comprenant un mélange de magazines et de livres, book en anglais. Pour en parler, nous recevons Christophe Deloire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes secrétaire général de Reporters sans frontières. L'année 2020 est l'occasion d'une sorte de nouvelle formule. Je l'ai dit, en quoi ce numéro 63 est-il différent des 62 précédents?
D'abord parce que c'est une nouvelle formule,
ouais,
avec des contenus enrichis, des témoignages extrêmement forts. Il y a le témoignage d'Hatice Cengiz.
Dites qui est.
Son nom ne vous dit rien. Mais Hatice, c'est la veuve de Khashoggi.
D'accord.
Et lui, peut-être, il dit quelque chose à tout le monde. Puisque c'est ce journaliste qui a été découpé en morceaux au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul par des services de Mohammed bin Salman, qui est le prince régnant d'Arabie Saoudite.
Exactement.
Bref, le summum de l'horreur dans la violation des droits des journalistes, puisque quand on va à ce point, c'est qu'on veut non seulement restreindre le pluralisme dans un pays, c'est le cas de l'Arabie Saoudite, qu'un pays qui est aujourd'hui le président du G20, le groupe des 20 États les plus puissants de la planète, qui va organiser un sommet à Riyad et dont le régime a fait taire un journaliste, pour faire taire les autres aussi, de cette manière la plus barbare qui soit. Et il y a le témoignage de sa veuve dans cet album, qui par ailleurs est un album avec, vous le mentionniez, les photos de Philippe Halsmann, qui est un photographe absolument extraordinaire. Tout le monde ne connaît peut-être pas son nom, mais tout le monde connaît ses photos et c'est impressionnant quand on regarde le portfolio à quel
c'est
point...
D'abord, on va dire... On va parler de lui après. D'abord, je veux juste dire un mot de cet album qui ressemble davantage à un MOOC. Je l'ai dit, contraction de magazine et de book. C'est un peu dans l'esprit de la revue 21, Ouzbek Erika. Pourquoi ce choix?
Parce que c'est important que cet album, historiquement connu sous le nom de 100 photos pour la liberté de la presse et qui est en train de beaucoup évoluer, qui s'ouvre à des nouveaux contenus, au dessin notamment. Et là, on met notamment dans cet album, et ça c'est inédit, une forme de conversation à travers le temps entre un photographe, qui est Philippe Halsmann, et un réalisateur qui a réalisé des films absolument formidables, qui est Michel Hazanavicius, qui est le réalisateur de The Artist, césarisé, oscarisé, ou des films OSS 117. Et Hazanavicius est fasciné par Halsmann, il raconte cette fascination, il raconte pourquoi.
Il le raconte, il signe l'avant-propos de l'album, et il a évoqué le travail de Philippe Halsmann, dont on va parler au micro de Louise Bernard.
J'aimais ses images, et ses images les plus joyeuses, mais par contre je ne connaissais pas du tout sa collaboration avec Dali, etc. Et quand j'ai découvert le parcours de l'homme, il y a quelque chose d'assez romanesque, en fait. Pour vous raconter basiquement ce que j'ai mis dans l'avant-propos, c'est quelqu'un qui a une de ses séries les plus célèbres, ça s'appelle la Jumpology. Il photographie des gens en train de sauter en l'air au moment où ils sont le plus haut, donc il les immortalise en apesanteur. Et il se trouve que son père a fait une chute d'une falaise, il est mort quand il était jeune, il a été accusé d'avoir tué son père, il a fait de la prison pour ça, il en est sorti heureusement. Mais je trouvais qu'il y avait un parallèle entre quelqu'un dont la vie bascule à cause d'une chute et quelqu'un qui va immortaliser les gens justement en apesanteur. C'est-à-dire c'est la négation de la chute justement. Donc je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant à fouiller par là.
Pareil, je montre l'image sur europe1.fr, on voit Marilyn Monroe qui saute, la Jumpology donc inventée par lui, Philippe Halsmann, qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, ça date des années 50.
Oui, Jumpology comme to jump, ouais. sauter. Donc il y a cet écho dans la vie d'Altman lié, comme le racontait Azanavicius, à la chute de son père, qui en est décédé. Altman accusé d'avoir, non seulement accusé, mais incarcéré, condamné pour avoir tué son père. Mmh. Et certains de ceux qui sont d'ailleurs photographiés dans cet album, des Einstein, des Freud par ailleurs, ont soutenu Altman. C'est pour ça qu'il a pu sortir de prison et faire cette carrière. Et puis par ailleurs, une raison plus concrète sur la photo pour laquelle Altman a inventé cette jumpologie, c'est parce qu'il raconte que quand les personnages sautent, c'est le moment où ils ne se composent plus un visage.
Où ils s'oublient.
En fait, ils oublient leur rôle de scène ou leur rôle social. Et donc, enfin, on découvre leur vrai visage. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles la force de tous ces personnages de légende, la force de ces photos est tellement intense.
Et pourquoi vous avez demandé à Michel Azanavicius, on l'a dit, réalisateur multiprimé d'OSS 117 ou des artistes, d'écrire l'avant-propos de cet album. Pourquoi lui ?
Parce qu'il est fasciné par Altman. Parce qu'il y a quelque chose sur le lien entre la gravité et la légèreté, et que le réalisateur de The Artist, ce personnage fantasque, léger, mais aussi avec une forme de gravité, je crois, s'y prêtait particulièrement.
Et muet.
Et ça dit au fond quelque chose assez de ce que doit être le journalisme.
Allez-y.
Qui dit à la fois les horreurs du monde, mais qui ne doit pas nous lester avec elles, et qui doit aussi nous embarquer. Le journalisme... Ça peut être d'avoir les pieds dans la terre, sur la terre, et la tête dans les étoiles.
On est d'accord. Ça me rappelle l'émission Les Racines et des Ailes. C'était ça l'idée, justement, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Chaque album est vendu 9,90. À quoi sert cet argent, c'est très important, on en parle juste après ça.
Le numéro 63 de l'album Reporters sans frontières sort demain, avec une nouvelle formule dont on continue à parler avec son secrétaire général Christophe Deloire dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
L'album de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse est 3 numéros par an. Le nouveau et premier de cette année sort demain, avec des nouveautés dont on parle ce matin avec Christophe Deloire, le secrétaire général de Reporters sans frontières, Philippe.
Ce qui n'est pas une nouveauté, c'est que chaque album est vendu. J'ai donné le prix 9,90€ et la recette de ces ventes représente 30% de votre budget annuel. C'est énorme. Vous le tirez à combien d'exemplaires, Christophe Deloire ?
À 120 000 exemplaires, il y en a 3 par an, c'est 30% de nos recettes, donc c'est 30% de nos activités partout dans le monde en défense des journalistes, mais au-delà des journalistes, en défense du droit de chacun, de tous les citoyens, de tous les êtres humains à être informés, c'est 30% de ces activités qui, grâce à l'album, sont financées. Donc, acheter l'album, c'est acquérir un livre photo, d'une qualité, je crois, exceptionnelle, pour un prix extrêmement modique.
Et je dois le dire, est magnifiquement imprimé sur du très très bon papier.
Merci de l'avoir observé. Et c'est aussi contribuer à une cause qui est une cause majeure, à un moment qui peut être un moment pivot, s'agissant du droit à l'information, du droit à l'information fiable, qui est un enjeu international absolument majeur et un enjeu pour chacun d'entre nous.
Et il y a une cause dans la cause, car vous lancez ce mois-ci la campagne « Ici, on défend la liberté de la presse » dans les kiosques et chez les marchands de journaux. C'est quoi l'idée ?
Cet album, il est unique au monde pour une raison, c'est que c'est une immense opération de solidarité de tout le réseau de distribution, de diffusion, de vente de la presse. Et les marchands de journaux sont un élément essentiel de cette chaîne de la liberté de la presse. C'est-à-dire, il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi les sources des journalistes, il y a tous ceux qui travaillent aussi dans les coulisses, autour, dans les rédactions, et puis il y a les marchands de journaux. Et quand les kiosques, dans les pays où les marchands de journaux sélectionnent l'information, en Chine, on y reviendra peut-être, en fait, le journalisme, sa liberté n'a plus de sens. Donc, le rôle du marchand de journaux, il est prépondérant. Et moi, je tiens à remercier, à profiter d'être dans votre émission pour remercier tous ceux qui contribuent à cette chaîne de solidarité, que ce soit Prestalis, Relais, Culture Presse, Interforum, et puis les marchands eux-mêmes, dans tous les points de vente, les libraires aussi, qui contribuent de manière bénévole et qui, je dois le dire, doivent savoir que dans l'ensemble du monde, des journalistes se sentent redevables vis-à-vis d'eux parce qu'ils contribuent en France au pluralisme et à tout ce qui peut être défendu dans le reste du monde.
Eux aussi font partie de la chaîne, je vais citer d'autres slogans. Votre marchand de journaux peut éviter un journaliste d'être torturé, votre marchand de journaux peut aider un journaliste de sortie de prison, votre marchand de journaux lutte contre les fake news, et j'aime bien aussi celle-ci, votre marchand de journaux n'est pas le meilleur ami de Kim Jong-un. À quoi maintenant, la question que les gens se posent, à quoi sert cet argent concrètement ?
Concrètement, Reporters sans frontières assure une assistance sur le terrain. Je vais vous donner un exemple. Il y a un accord qui vient d'être signé en Afghanistan par les États-Unis et les talibans, sur le dos des autorités afghanes. Nous, on a contribué à créer un centre pour la protection des femmes journalistes afghanes, et qui fonctionne depuis 2 ans, et qui permet d'obtenir des résultats dans un monde, dans un pays où les journalistes sont absolument persécutés. Ça nous permet, dans des pays africains, de défendre des journalistes qui sont incarcérés pour un tweet. C'est le cas d'un journaliste au Bénin qui, pour avoir tweeté des propos du procureur général, a récemment été condamné à 18 mois de prison. Ses tweets, ils étaient parfaitement fidèles. Il se retrouve en détention. On se bat aujourd'hui pour obtenir sa libération. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en citer partout.
On va donner son nom parce que ça va le protéger. Il s'appelle Ignace Sossou, c'est bien ça ?
Absolument, c'est Ignace Sossou.
Voilà.
Et puis en ce moment, on a un combat majeur qui est en faveur de Julian Assange et le fondateur de Wikileaks, qui fait l'objet d'une procédure à Londres d'extradition vers les États-Unis, qui risque 175 ans de prison aux États-Unis. Alors, c'est une peine qui serait absolument terrifiante pour lui, mais qui serait terrifiante pour le journalisme dans son ensemble.
Pourquoi
ce qu'on est en train de défendre, c'est notre droit à savoir quels peuvent être les crimes de guerre en Afghanistan ou en Irak, lorsque des guerres, par exemple, sont menées par les États-Unis. Et Julian Assange, aujourd'hui, il est poursuivi pour avoir simplement permis des révélations journalistiques. Alors, quels que soient les sentiments de chacun sur cet homme, qu'on considère qu'il est un héros ou pas, le défendre, c'est un enjeu majeur, et Reporters sans frontières est l'organisation principale qui aujourd'hui le défend.
Et puis il n'y a pas seulement les avocats, il y a aussi des actions beaucoup plus pragmatiques, je vais dire d'un mot, par exemple le prêt de gilets pare-balles, de gilets de presse, de casques et de balises pour les journalistes qui veulent enquêter sur place, tout ceci grâce à vous et grâce notamment à cet album. Et en ce moment, Christophe Deloire, un grand mouvement de défiance envers, sinon la presse, du moins envers la communication officielle des gouvernements, des États, à cause du coronavirus. J'ai une question pratique. Vous êtes pas tout à fait en odeur de sainteté, c'est un euphémisme, en Chine. Est-ce qu'il faut croire les autorités chinoises quand elles disent que l'épidémie décline en Chine ?
Est-ce qu'on peut croire un régime despotique quand il fait sa propagande ? Et ce qu'on a pu observer en Chine, c'est que le blogueur qui avait fait le plus de révélations sur le coronavirus, il a disparu, littéralement.
Celui qui s'était improvisé reporter médecin ?
Alors pas le médecin, il y a un médecin
qui est mort. Ah, le premier blogueur.
Mais il y a des blogueurs qui ont disparu. Tout simplement, sans laisser de nouvelles, manifestement, ils ont été incarcérés.
Oui, il y a autre chose qui m'a inquiété comme ça.
Il y a eu un resserrement. Il y a eu, au début, la presse chinoise a pu un peu parler de l'épidémie. Ouais. Et puis, d'un seul coup, parce qu'il y a une directive du pouvoir de Pékin, ça s'est refermé.
Blackout.
Et quand il y a un blackout, quand on est condamné, et on l'est nous tous, il n'y a pas que les Chinois, on l'est nous, personnellement, en France,
ah bon,
quand on est condamné à écouter la propagande de Pékin là-dessus, ou la communication, diront certains, bah, évidemment, on a des raisons de se défier. Et heureusement qu'en France, et quel que soit le scepticisme parfois vis-à-vis des journalistes, heureusement qu'on a des journalistes qui peuvent enquêter librement sur ces questions-là.
En France, on est libre, il faut tout le temps s'en réjouir, et les médecins peuvent parler librement à la sortie des hôpitaux avec des journalistes.
Ça fait quand même une différence majeure à ceux qui pensent qu'on n'est pas du tout une démocratie et qui critiquent les médias ou parfois professeurs.
Qui parlent de dictature.
La haine à leur égard.
Exactement. Et les journaux distribuent tout, les kiosquiers distribuent tous les journaux dans leurs kiosques, quand bien même ne sont-ils pas d'accord avec ce qui est imprimé. Merci beaucoup, Christophe Deloire, d'avoir été avec nous. Philippe Halsmann, il est en couverture, c'est le portfolio magnifique de cet album, le 63e de RSF pour la liberté de la presse. L'avant-propos est de Michel Hazanavicius. Ça vaut 9,90 €. Vous ne le regretterez pas. Vous pouvez même en acheter plusieurs pour faire des cadeaux, parce que vraiment, c'est un cadeau pour la liberté.
Dans Culture Média, on va parler back body drop, mountain bomb, body slam ou encore catapulte. Ce sont des prises de catch, et du catch à la télé en France, il y en a depuis 20 ans. On en parle avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Et dans Culture Média ce matin, Philippe, on parle de catch.
Bonjour Christophe Agius.
Bonjour Philippe Vondel.
Bonjour Philippe Chéreau.
Bonjour Philippe.
Vous êtes tous les deux la voix du catch en France. On vous entend sur ce qui est devenu la chaîne du catch ici, AB1. Vous venez de fêter un anniversaire. Ça fait combien de temps que votre duo existe ?
20 ans.
20 ans et toutes vos dents. Vous présentez deux émissions de la WWE. Comment on prononce ça ?
Raw et SmackDown.
WWE.
Voilà, c'est ça. Raw et SmackDown. Alors Raw, c'est le mercredi à 20h45. SmackDown, le samedi à 20h45. Quelle différence entre Raw et SmackDown ?
C'est la même fédération, sauf que ce ne sont pas les mêmes catcheurs. Raw, en fait, est l'émission historique, hein, qui est là depuis des décennies. Et SmackDown est un peu plus récent, et en fait, bah, ce sont deux branches de la WWE.
Mais c'est le même sport.
Tout à fait.
C'est pas comme le rugby à 15 et le rugby à 13.
Non, non.
On va entendre la bande-annonce de Raw.
WWE Raw.
Non aux règles.
Ruby Riott is back. Non aux limites.
Oh là, on a entendu le bruit, le choc à l'extérieur là-bas.
Oui, au spectacle total.
C'est pas possible.
Les superstars du Raw se manifestent et ça va faire des dégâts.
Alors Raw, je le dis, c'est pas R-O-T, c'est R-A-W, on le prononce à l'américaine. C'est un acronyme, ça veut dire quelque chose, R-A-W, ou c'est la traduction de cru?
Raw. Non, c'est la traduction de cru, effectivement, c'est pour dans votre figure directement. Quoi.
Voilà, on y va, et en même temps, à la fin, on est cuit. Maintenant, on va vous entendre dans vos œuvres, voici la prise d'antenne.
C'est enfin le moment, c'est enfin la soirée. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à SmackDown. Non, on se bise pas, on se serre pas la pogne, parce qu'on sait jamais. En attendant ce soir, vous avez le virus de la WWE dans le sang et nous sommes heureux de vous retrouver à Boston pour un SmackDown exceptionnel. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Monsieur Philippe Chéron, bonsoir à tous. Et on accueille immédiatement le nouveau champion universel, The Man, ici à Boston, Massachusetts, pour WWE SmackDown.
Vous pouvez nous refaire la voix ?
C'est lui le plus énervé. Hein,
ouais.
Eh bien, bienvenue aujourd'hui sur Europe 1 pour WWE SmackDown.
Et s'il continue comme ça, on va faire passer Philippe Vandel par-dessus la troisième corde.
J'adore.
Comment vous est venue cette voix? Vous la faisiez et du coup, quelqu'un vous a engagé et vous a mis au micro ou l'inverse? Vous êtes retrouvé là au micro et vous êtes dit, faut que je fasse quelque chose et vous êtes sorti des tripes, cette voix venue de nulle part.
Non. Dans quel ordre?
J'ai une petite explication.
Allez-y.
Quand il est arrivé il y a de ça 20 ans, il était tout jeune, hein, il avait à peine 18 ans.
19 ans.
Et en fait, il n'avait pas la voix pour ça. Donc ça a été limite. Quand on a fait le casting, on a dit avec les ingé son, on va essayer de trouver une solution. Donc il a un peu forcé sa voix. Et au bout de 6 mois, il a mué et il a eu cette grosse voix maintenant qu'il a et qui est reconnaissable.
Alors avec vous, on est totalement dans l'ambiance. Par exemple, vous traduisez les stars du catch qui parlent parce qu'il y a beaucoup de paroles avant les matchs. Vous imitez les voix, mais vous imitez même les intonations. Exemple, c'est la présentation de Goldberg. On peut dire qui il est, Goldberg?
Ah oui, c'est une superstar.
L'un des plus grands champions de l'histoire.
Qui est connu de tous les fans et même au-delà. Hein.
Alors, il faut raconter comment ça se passe. Le catch, c'est que c'est pas comme un match de foot où les types arrivent sur la pelouse et jouent. Là, le type monte sur le ring, prend un micro, il parle et ensuite il y a le combat. On va écouter la présentation de Goldberg.
Ladies and gentlemen!
Mesdames et messieurs!
Do not be mistaken!
Ne vous y trompez pas.
It's not about who was last.
Il ne s'agissait pas de savoir qui serait le dernier.
It's all about who's next.
Mais bien qui est le prochain?
Vous faites tout, vous faites les rires, la voix, l'intonation.
Oui. Mais je me suis toujours dit qu'en fait, selon la voix des catcheurs, aux États-Unis, certains catcheurs ont des voix bien distinctes. Donc je me suis dit d'essayer de traduire de la même manière. Après, c'est de la traduction de bas étage.
Il est
des
très
vrais
fort.
Comédiens doivent se moquer.
Fort.
Qu'est-ce qui vous séduit à ce point dans ce sport d'être fan? Parce qu'on ne peut pas dire que ce soit un sport qui touche à ce point les petits Français, surtout il y a 20 ans.
De plus en plus, il faut quand même comprendre.
Ça c'est vrai. Ça monte.
Ouais, ouais,
mais il y a 20 ans.
Ça monte, ça descend. Ouais.
Il y a 20 ans, quel a été le déclic? 20 ans ou 25 ans? Pourquoi vous êtes intéressé à ce sport?
L'achat des droits par mon groupe, tout simplement, et notre présence déjà aux commentaires d'autres sports.
Donc vous êtes une pièce rapportée. Vous n'étiez pas fan
moi,
de
oui,
catch.
Complètement.
Vous n'étiez pas fan de catch à la base.
La vraie belle histoire, c'est Christophe qui était fan.
La vraie belle histoire. Mais
oui, c'est vrai.
Moi, je suis fan depuis tout petit.
Racontez.
J'ai découvert le catch sur une chaîne cryptée pour laquelle vous avez travaillé longtemps
Canal
également.
Plus, ouais.
Exactement, dans les années 80, je regardais ça avec un voisin qui faisait les prises sur moi, malheureusement.
Ah oui,
mais bon, ça va, tout s'est bien passé. Enfin, bon, quand on voit ma tête aujourd'hui, on se dit que non, mais bon. Et j'ai pu monter une newsletter sur Internet à la fin des années 90 et puis en faire la promotion du catch. Et j'ai eu la chance d'aller passer ce casting à Paris pour travailler avec Philippe. Et au départ, effectivement, ma voix était tellement nulle que le directeur de casting a dit « on le prend pas, il a une voix pourrie ». Et Philippe a dit « non, on a fait un essai, on a discuté pendant 40 minutes sans couper, on va le garder
». Ouais.
Et donc c'est comme ça, depuis 20 ans, j'ai pu... travailler dans le catch, le boulot de mon rêve.
Vous restez encore avec nous?
J'espère.
Pas 20 ans, mais 20 minutes.
Ok.
Nos invités Christophe Ajus et Philippe Chéreau commentent le catch sur AB1 depuis 20 ans. On les retrouve pour le deuxième round.
On les retrouve
dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de catch dans Culture Média avec Christophe Ajus et Philippe Chéreau qui vient de faire un body slam sur Philippe Vandel.
Céline Dacosta qui se lance un peu dans le catch, mais c'est pas une blague, c'est qu'au moment où la parole féministe est de plus en plus présente, et tant mieux, il faut constater qu'il y a aussi des filles dans votre émission du catch féminin. On va entendre un extrait. L'extrait que j'ai choisi, il peut pas se comprendre si on n'a pas l'image, donc je vais vous décrire l'image. Elles sont deux à se battre.
puis 3, puis 4. Puis arrive l'arbitre pour les séparer, l'arbitre n'y arrive pas, et alors soudain déboule sur le ring, en plus, deux arbitres hommes, on écoute.
Oh non, oh non, oh non, elle va quand même pas se mêler de cette histoire.
Et pourquoi pas ?
Là, l'impertinente belle du sud de Sassy Thornburg, Lacey Evans, l'ancienne Marines.
Elle n'aime pas évidemment l'injustice, ça coule dans ses veines.
La collision est totale, la bagarre est générale. Allez. Et Jessica Cole qui lui commence le match par équipe.
Eh bien pourquoi pas en effet, c'est une très bonne idée.
Oh purée, ne bougez pas les portes. Hashtag SmackDown la baie.
Il va y avoir des bleus.
Il va y avoir des bleus, elles se mettent des vrais coups.
Oui, les coups sont portés de plus ou moins fortement, mais oui, les coups sont portés.
Est-ce que c'est aussi violent que chez les hommes ?
Oui, bien sûr. Bah, d'autant qu'elles ont un peu de chemin à rattraper par rapport aux hommes, donc elles doivent se donner d'autant plus fortement que les hommes. Ouais.
Et il y a aussi des femmes qui commentent le catch.
Oui,
aux États-Unis.
Depuis peu, c'est vrai, mais il y a une révolution, on appelle ça la révolution féminine.
Racontez.
Depuis quelques années, ça a été mis en place par Stephanie McMahon, qui est la fille du président fondateur de la WWE, et c'est vrai que les combats de la division féminine ont de plus en plus de place, à tel point que maintenant on a des main events, ce qu'on appelle l'événement principal, on finit le show avec évidemment le match que tout le monde attend, et ce sont des combats féminins, y compris à WrestleMania, on en a eu un il y a de ça 2 ans.
Parce qu'il faut expliquer dans les réunions, je ne sais pas si on dit des réunions comme en boxe, il y a des matchs d'hommes et des matchs de femmes.
Tout à fait. Oui.
Alors, l'émission Raw, votre émission, débute à l'antenne sur AB1 par un avertissement.
Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme.
Pendant l'émission SmackDown, il y a un avertissement qui dit « On se contente de regarder, ne faites pas ça chez vous, à l'école ou n'importe où, soyez malin, ne prenez pas de risques. » Ça vous fait sourire, il y a déjà eu des accidents. Et puis ça dit aussi autre chose, c'est regardé par des gens très jeunes, ne faites pas ça à l'école.
Oui, bien sûr. Bah, malheureusement, oui, il y a déjà eu des accidents. Heureusement, en France, pas tant que ça, mais aux États-Unis, il y en a eu quelques-uns qui avaient défrayé la chronique il y a de nombreuses années de ça. C'est normal, c'est comme quand tous les enfants, quand ils regardent un programme, moi quand j'étais petit c'était Zorro, on jouait à Zorro, c'était évidemment moins dangereux que le catch, mais le catch est extrêmement dangereux et les gens ont tendance à l'oublier parce que c'est du spectacle, c'est vrai. Mais les superstars prennent de vrais risques.
À ceci près qu'il n'y a jamais, par exemple, ce genre d'avertissement quand on regarde une compétition de boxe ou de judo. On ne dit pas « ne faites pas ça chez vous ».
Ou de voiture.
Ouais.
Parce que tout le monde roule en voiture et des fois, on a envie d'imiter les champions de rallye.
Oui, mais on n'a pas tout le temps 500 chevaux sous le capot.
Tout à fait.
Pourquoi c'est si dangereux le catch ? Parce qu'en même temps, on voit bien que c'est scénarisé. Vous avez dit une fois, Christophe Agius, au sujet des catcheurs, ils se font très mal mais ne le montrent pas, ce que j'ignorais. Et ils peuvent faire mine de se blesser, mais ce n'est pas pour de vrai. Mais ça, je m'en rendais compte. Mais ils se font vraiment parfois mal. Et comment ?
Ah bien sûr, mais comment ? C'est ça. La folie du catch, c'est qu'en général, quand les catcheurs sont vraiment blessés, ils vont pas le montrer, alors qu'ils vont vendre, c'est comme ça qu'on dit, une blessure qui est censée être dans le scénario. Donc, et c'est le danger du catch, c'est qu'en fait, les gens vont regarder ça et vont croire que ça a l'air simple. Mais en fait, les chutes sont très dangereuses.
Ce qui fait le succès du catch, justement, ce sont ces prises de risques. Donc, plus on prend un risque en tant que catcheur, plus forcément, on a envie de regarder et quelques-uns ont envie de reproduire.
Ce qui fait peur, c'est pas quand ils sont sur le ring, c'est quand ils sortent du ring, par exemple. Quand ils sautent par-dessus, on se dit, mais ils tombent sur le dos, s'ils sont complètement malades.
Mais même dans le ring est fait de bois et de métal. Donc, en fait, tomber dessus, et c'est pour ça qu'ils sont si musclés aussi, parce que les muscles vont... protéger leur corps.
La fédération, le E de WWE, c'est Entertainment. Dans quelle mesure c'est un sport ? Dans quelle mesure c'est un spectacle ? Est-ce qu'on sait d'avance qui va gagner ? Est-ce qu'on s'arrange avant, comme dans une pièce de théâtre, où on sait qui va mourir à la fin ?
C'est scénarisé et parfois même, les catcheurs ne le savent que juste avant d'entrer.
C'est-à-dire ?
C'est décidé par les scénaristes. Et puis on donne en fait, c'est toi qui vas gagner. Alors après, ça fait, il y a des techniques, bien sûr, il y a des enchaînements que tout le monde connaît. Mais en effet, c'est divertissant à tel point qu'aujourd'hui, l'une des personnes les plus bankable d'Hollywood, c'est Dwayne Johnson, que nous, on a commenté depuis des années en tant que The Rock sur les rings de la WWE. Donc, et John Cena aussi vient de plus en plus, ou même Batista, qu'on a vu régulièrement.
Puisque vous parlez d'argent, la WWE, la société qui organise les compétitions de catch, est cotée en bourse. Et sur les réseaux sociaux, ils sont devant la NBA, donc le basket et la NFL. Pourquoi, selon vous, ça reste encore une niche en France ? Qu'est-ce qui manque ?
Oh, bah, c'est pas forcément particulièrement une niche en France. Ça l'est aussi plus ou moins aux États-Unis. Mais par contre, la communauté est extrêmement puissante et les gens suivent avec, avec beaucoup d'intérêt sur les réseaux sociaux. Et puis, il y a beaucoup de jeunes à travers le monde, donc c'est pour ça. Mais c'est très populaire en France, comme ça l'est aussi aux États-Unis.
Les audiences, ça marche, vous le savez ?
Ça marche très bien. Regardez comment on est habillé, tout est neuf, on est blindé, évidemment.
Vous avez surfait un petit peu le visage il y a longtemps.
Et en vrai, vous avez les chiffres ou pas du tout ?
Ouais, on est la meilleure audience de la chaîne AB1 sur laquelle vous avez pu voir des Féro ou SmackDown. Ouais,
d'accord, AB1 qui vient d'être acheté par Media One.
Tout à fait.
Voilà. Ça a changé quelque chose depuis que Media One s'en occupe ?
Bah, regardez, comme le dit Christophe, voilà,
vous êtes habillé. Bien sûr.
Voilà. Merci Pierre-Antoine Capton. Fin du match. Merci beaucoup Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Je rappelle, tous les mercredis, c'est Raw à 20h45 sur AB1. Et samedi, donc le match qui arrive, 20h45, ce sera SmackDown. Salut.
Merci.
Bisous.
On poursuit avec les digressions de Nora d'auteur. On retrouve le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus.
Gilles Gaston-Dreyfus, Gilles.GastonDreyfus.
Toi, c'est Stéphane de Groot.
Toi, tu dis de Groot.
Une vraie question. En France, on dit de Groot.
Oui.
Donc,
qu'est-ce que vous disiez, du coup ?
Bah, du coup, je...
Rien. Gilles, bonjour.
Bonjour, Stéphane. Quel jour sommes-nous ?
Le lendemain de la veille.
Ce qui veut dire
que hier, c'était mon anniversaire. Lundi, j'avais dit demain, c'est mon anniversaire. Mardi, j'ai dit c'est mon anniversaire. Maintenant, nous sommes mercredi, je vous dis hier, c'était mon anniversaire. Oh. Chaque jour est une nouvelle vie, donc chaque jour est un petit peu notre anniversaire. Bon anniversaire, Gilles. Il y a un truc que vous avez envie de dire aujourd'hui, un peu plus intéressant que les autres jours.
Mais quel jour ? Mercredi.
Je ne vais pas vous le répéter toutes les 3 secondes, hein, sinon on va se retrouver à jeudi.
J'ai une sortie.
Vous avez une sortie ?
Ah oui, c'est-à-dire...
Vous allez travailler le contenu, mais si vous pouviez travailler la forme.
La forme ?
Déjà, vous démarrez avec des mots qui ressemblent à du chewing-gum.
Vous connaissez De Gaulle ?
Jean-Jacques De Gaulle ? Paul De Gaulle ? Comment s'appelle le fils de Charles De Gaulle ?
Philippe.
Philippe De Gaulle.
Filou.
Il y a François Filou, enfin Fillon.
Vous avez remporté cette responsabilité.
Je porte tout ce que vous voulez, vous savez.
Quand il reviendra aux affaires, vous verrez.
Ah, parce que vous pensez qu'il va revenir aux affaires avec des Skype, Griveaux et De Gaulle.
On ne sait jamais.
Fillon, c'est un parlementaire.
Gabriel Le Bomain.
Pardon ?
C'est l'excellent réalisateur qui a réalisé la réalisation du film.
Il a réalisé de la réalisation.
De Gaulle.
Il sort quand ce film ?
Aujourd'hui. Quel homme politique vous auriez aimé jouer ?
Churchill. Après, on n'a pas le physique.
Vous pensez que vous auriez eu le physique ?
Je viens de vous dire que non. Qui sont les contemporains de Gaulle ?
Belgique, de Belge ? Le roi Audouin.
Audouin.
Je répète, méchant, mais...
Vous l'êtes.
Pourquoi ? On s'intéresse plus à la politique française qu'à la politique belge.
La politique, c'est quoi la politique ? Il y a des jours où vous enlevez les voyelles, aujourd'hui ce sont les consonnes.
J'enlève les R.
Aujourd'hui vous êtes privé de désert.
Je vous conseille d'y aller le voir ce film.
Qu'est-ce que vous en savez ? Vous n'avez pas vu ?
Si, je l'ai vu.
Vous avez vu l'affiche ?
Je l'ai vu en long, en large et en travers.
De biais, quoi.
Non, mais j'ai vu des photos.
J'ai pas parlé de mort aujourd'hui. Champollion.
C'est l'Égypte.
Quoi, c'est de l'Égypte ?
Bah, c'est les pyramides. Il a découvert l'entrée de la pyramide.
C'est Carter, ça.
Carter.
Non, pas Jimmy. Champollion.
C'est lui qui a découvert les premiers hiéroglyphes.
Il a découvert le M et le S, et avec Ra et M et S, c'est devenu Ramsès.
C'est lui qui a décrété que c'était Ramsès.
Ramsès. On savait que Ramsès, c'était... Enfin, c'est quand même fou, quoi. On connaissait Ramsès.
Comment pouvait-on connaître Ramsès sans l'avoir vu quelque part ?
Il a vu sur Internet.
Il peut dire n'importe quoi, votre ami Champollion.
Dans un autre domaine, il y a Jim Clark.
Bien sûr, coureur automobile.
Deux fois champion du monde, mort à 32 ans. 32 ans, vous faisiez quoi ?
Vous tapez Internet, c'est marqué partout ce que je faisais à 32 ans.
Vous avez démarré chez Michou, non ?
J'habitais à côté de chez Michou, on avait des très bons rapports.
Qu'est-ce que vous entendez par très bons rapports ?
Sa fenêtre donnait sur la mienne.
Une fenêtre de tir. On parlait de De Gaulle et on est chez Michou maintenant. Vous avez un autre film qui est sorti aujourd'hui ?
Il n'y a que celui-là.
Bon, clôture alors.
Oui, on peut clôturer.
Il y a demain, Gilles.
À demain, Stéphane.
Au revoir.
C'était l'Era d'auteur avec Stéphane de Groot et Gilles Gaston-Dreyfus. Vous les retrouvez demain dès 9h55.
Europe 1, Culture Média.
Culture Média qui continue après le rappel des titres de Marguerite Lefebvre. On va parler culture avec Mathias Malzieu pour parler de son film Une sirène à Paris, mais également d'un nouvel album de son groupe mythique Dionysos. Et ceci explique cela, vous comprendrez. Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, une série documentaire sur Netflix. Qui a tué Malcolm X ? Ce sera avec Margot Barallon. Et musique enfin avec l'un des rares groupes français à l'affiche du prestigieux festival de Coachella à Los Angeles. Révélation avec Angèle Châtelier.